Chapitre 17. La double méprise. Tandis que ce lugubre débat s'agite sous les ombrages de Grosbourg, de l'autre bord de la rivière, sur les pentes découvertes où le verger des Fainingans étale ses espaliers tout bourdonnants de guêpes, ses treilles en arceaux, ses allées bordées d'arbres fruitiers rabougris et menus comme des arbres chinois, Richard se promène avec sa mère, attendrissante pour la façon dont elle abrite d'une ombrelle anxieuse ainsi qu'un petit enfant porté à bras, le robuste boucanier qui marche et cause à côté d'elle. Lydie est restée au salon pour recevoir. Car le lundi est le jour des dames Fainingan, et le drame de la matinée leur vaut un surcroît de visite, curieuse de détails, curieuse surtout du visage et des attitudes de la jeune femme devant la catastrophe. Malgré son trouble, malgré le désir d'être près de son mari, Lydie a compris qu'elle devait à la sécurité de Richard, à la dignité de leur maison, de braver la malveillante intrusion de tous ces gens. Que sera ce léger sacrifice d'amour-propre à côté de ce qu'il a osé pour elle? Et pendant que les coups de timbre se précipitent à la grille du château, la mère, qui du fond du verger reconnaît ses visiteurs, les signale à son fils à mesure. Ça, le break de Château-Frayé. Ça, les petites juives de Mérogis. Décidément, ta femme a bien fait de les recevoir, mon cher enfant. Si on l'avait vu se soustraire aux visites aujourd'hui, Dieu sait ce que tout ce monde aurait dit et supposé. Qu'est-ce qu'on pourrait donc croire ? Lui demande Richard tout bas. Pour être plus seul, ils se sont réfugiés dans la dernière allée, entre des planches d'œillets et de juliennes aux nuances multiples, aux odeurs de poivre et d'encens. « Est-ce qu'on sait, répond-elle, que cette mort du prince affecte beaucoup Lydie, qu'elle se cache pour n'en rien laisser voir ? Le monde est si mauvais !» Richard respire, soulagé, comme s'il s'attendait à des suppositions autrement terribles. La mère continue. Si cruelle et prématurée que soit cette fin de vie, croire qu'elle ait pu causer une larme à notre chérie, ce serait ne pas connaître sa nature fière. D'abord, elle ne l'a jamais aimé, ce cher Lexi, et tant de lâcheté, de férocité, avait fini par lui inspirer de la haine, un besoin de vengeance. Je me la rappelle à Quiberon, dans son délire, j'entendais jusqu'à des menaces de mort. Tais-toi, tais-toi ! Murmure le fils vivement devant un garçon jardinier qui passe portant des châssis de verre. Et quand le garçon est loin, « Savais-tu, » demande Richard à sa mère avec un peu de gêne, « que l'autre, enfin Charlet, savais-tu qu'il rôdait depuis quelque temps par ici ?»« Je l'ai appris ce matin, ta femme l'ignorait aussi. Du moins, elle me l'a affirmé et je ne doute jamais de sa parole. » Je la connais trop bien maintenant. Richard s'arrête au milieu de l'allée, très ému. Puisque tu la connais, pourrais-tu me dire ce que signifie ce trouble, cette contrainte devant moi depuis mon arrivée? Je sens qu'un aveu lui pèse, qu'elle n'ose me faire. J'avais pensé un instant que cette apparition sous bois, hideuse et grouillante. Mais elle n'a rien vu. Oui, je sais. Aussi, je cherche ailleurs. « Oh, n'aie pas peur, ce ne sont pas mes papillons noirs qui me poursuivent. Je suis guérie et pour toujours. » Seulement, ce char Lexi, double et compliqué comme son nom, avait une âme infernale et je me demande si, furieux de voir Lydie lui échapper, il n'aurait pas essayé de la ressaisir par quelque scélératesse. Suppose qu'il ait gardé des lettres, un portrait trop intime, et qu'en mon absence, il s'en soit servi comme d'une amorce, d'une menace pour obtenir un rendez-vous d'abord ? Ah mon Dieu, c'est vrai, tu me rappelles ! Madame Fainingan est interrompue par deux violents coups de cloche venus de la cour intérieure. Lydie m'envoie chercher, je parie. Le salon doit être bondé. Elle comprend le geste de son fils. Mais avant que je te finisse mon histoire. Donc, vendredi dernier, jour de marché à Corbeil, j'emmène Lydie qui, depuis ton départ, n'était pas sortie. La mère avance prudemment dans ce récit de la rencontre du prince chez le bijoutier, insiste sur la pâleur de la jeune femme sortant du magasin, ce saisissement qui prouve bien l'inattendu de l'aventure, et craignant toujours quelque explosion du pauvre jaloux. Si Lydie ne t'a pas parlé de cela dans ses lettres, c'est que je l'en ai supplié. Tu m'entends, mon fils ? Il ne faut pas lui en vouloir. C'est moi seul. » Mais Richard ne doute pas une minute de la véracité de sa mère, de l'honnêteté de sa femme. Il se rappelle seulement la scène effroyable et si différente dont fut témoin ce même verger il y a quelques mois à peine. Que de choses depuis lors, quelle métamorphose de tous leurs sentiments. Gravement, il a pris les vieilles chères mains maternelles gantées pour le jardin, les appuie sur ses lèvres avec ferveur. « N'aie pas peur, mère aimée. Désormais, j'ai foi en Lydie comme toi-même. Mais ce que tu me racontes confirme toutes mes appréhensions. Je sais maintenant, je devine... » « Quoi ? Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce que tu supposes ? Tu me fais peur, vraiment !» Encore un coup de cloche, et presque aussitôt, un domestique qui vient chercher Madame Fénigan. C'est bien ce qu'elle pensait, sa présence au salon devenue indispensable. Et sur un ton faussement joyeux, car l'anxiété de ses enfants commence à la poignir à son tour, elle jette à Richard en s'en allant. « Je vais t'envoyer ta femme, tâche de la confesser !» Les coudes appuyés au petit mur bas, crêté de briques, qui sépare le verger d'un vaste champ d'avoine en pente vers la Seine, longtemps Richard songe immobile. Confesser Lydie. À quoi bon ? Sa conviction est faite. Entre elle et l'ancien amant, quelques liens subsistaient, offensants, déshonorants. Ainsi s'expliquaient les rôderies autour du parc, la rencontre à Corbeil. Prise, traquée entre l'audace de ce misérable et le prochain retour de son mari, bravement elle était venue à un dernier rendez-vous pour avoir à tout prix le gage, lettre ou portrait, resté en des mains scélérates. Là, devant des conditions trop infâmes, la pauvre fille s'était vengée, défendue, et comme un soir à Quiberon, mais d'une arme plus sûre et non plus contre elle-même cette fois. L'homme mort, l'indignation tombée, elle restait stupéfaite, épouvantée de son crime, avec le besoin si humain d'avouer, surtout au mari, seul capable de l'excuser, de la comprendre. Voilà pourquoi elle se serrait contre lui, les yeux dans les siens, comme pour lui dire « J'ai peur, j'ai honte, cache-moi, sauve-moi ». Que faire ? Comment accueillir ce terrible aveu autrement qu'en ouvrant son cœur et ses bras tout grands ? N'était-il pas responsable, lui aussi ? Ne lui avait-il pas dit, et combien de fois, et de quel accent désespéré ? Tant que cet homme vivra, nous ne pourrons être heureux. Toujours je songerai qu'il t'a eu, toujours je craindrai qu'il te possède encore. Pouvait-il en vouloir à sa femme de les avoir enfin délivrés ? Et si, en ce moment même, il se sentait l'âme élargie, soulevée d'une incompréhensible allégresse, si ces houles frissonnantes de blé noir et de folle avoine, ce tournant de rivière enflammé au fond de l'immense plaine, et ce ciel et ces arbres, si tout cet horizon familier l'éblouissait comme jamais, ne le devait-il pas au sentiment d'être seul maintenant à désirer, à posséder cette adorable créature ? Des pas furtifs et rapides, le frôlement d'une robe de mousseline. Elle est à son côté, haletante et si pâle. « Delcruz est là » murmure-t-elle à Richard, sans le regarder, accoudé au petit mur près de lui. « Tout est changé, paraît-il. On croit à un crime à présent, une piste nouvelle. » Oh, ces pauvres lèvres blanches qui s'efforcent de sourire en parlant, s'ils avaient été seuls dans le jardin, comme il leur eût vite rendu la couleur et la vie. Mais on entend des râteaux qui crient dans toutes les allées, les arrosoirs sonnent sur la pierre des margelles. « Quelle piste, sait-on ? » demande Richard d'un air indifférent qui cherche à la rassurer. « Non, le juge ne veut rien dire. J'ai laissé tout le salon empressé et curieux autour de lui. »« Que nous importe, après tout ? » dit Richard avec une tendre véhémence. Et prenant sous la légère mousseline un bras jeune et rond qu'il presse contre le sien, « On est si bien ici !» Autour d'eux, à mesure que descend le soleil, s'évapore l'encens des giroflées jaunes, pourpres, mauves. Les œillets embaument avec frénésie, et dans cette réverbération d'odeurs et de couleurs violentes, des nuées de papillons microscopiques, cherchant la fraîcheur des arrosages, tourbillonnent au ras des fleurs en étincelles bleues. Oh oui, on est bien ! Soupire Lydie, posant sa tête sur l'épaule de son mari, avec une coquetterie enfantine, mais le cœur cruellement angoissé. Elle se demande, surprise de le voir si calme devant tout ce qui les menace, « Qu'espère-t-il ? Où prend-il son courage ? Encore, si on était sûr de ne pas se quitter, de souffrir et d'expier ensemble ! Ah, pauvre cher ami !» Richard, lui, délivré par la mort de Charlet du poids qui si longtemps lui a étreint le cœur, savoure la beauté rayonnante de sa femme comme il s'enivre de la splendeur du ciel et de l'horizon. Mais l'angoisse des beaux yeux gris posés sur lui le gêne, le désole. Oh, ne soupire plus comme cela. Voyons, Lydie, qu'as-tu? Pendant que nous ne sommes que nous deux, tout seuls, tout prêts. Pas assez seuls, mon Richard, pas assez prêts pour ce que nous avons à nous dire. Ou alors, quand veux-tu? Ce soir, cette nuit? Oui, cette nuit, on se dira tout. Leurs souffles, leurs mains se cherchent, se brûlent. Et Richard, doucement, « Tu n'as donc pas peur que je sois méchant, comme l'autre fois, la nuit de mon départ? Tu te souviens ?»« Je n'ai plus peur de ça !» dit-elle avec assurance. « Pourquoi ?» Elle s'est redressée d'une détente. « Parce qu'il y a maintenant entre nous une chose !» Il feint de n'avoir pas compris, demande tout bas. « Quelle chose ?» Ils se regardent frissonnant, comme pris du même accès de fièvre, brûlés du même désir. Elle a derrière elle tout le ciel en feu qui nimbe ses cheveux fins. Lui, les yeux éclaboussés par le rouge soleil qui agonise. Jamais ils ne se sont trouvés si beaux, jamais ils ne se sont voulus aussi ardemment. Et ce n'est pas cette lumière d'apothéose qui les transfigure, les fait nouveaux et superbes l'un pour l'autre. C'est la chose, la sinistre chose dont ils se soupçonnent tous les deux et qui, plus forte que la pitié et le pardon, seule aura le pouvoir de rendre la vie à leurs caresses et de tout leur faire oublier. Fénigan ! Hé, Fénigan ! La voix autoritaire et coupante venait du haut du verger.
C'est Delcrous !
Dit la jeune femme avec un sursaut d'épouvante. Richard gronda entre ses dents. « Qu'a-t-il donc à nous relancer jusqu'ici ?» En même temps, son geste, instinctif et protégeant, enveloppait Lydie et semblait dire « Je suis là, ne crains rien. » Elle songeait, le voyant si tranquille, « Qu'il est brave, comme je l'aime !» Richard la trouvait bien touchante aussi, délicatement femme, avec ses peurs nerveuses qui les bouleversent après l'action. « Excusez-moi, mon cher Fénigan !» cria Delcrouz en se rapprochant à petits pas rapides. « Je voudrais être à Corbeil avant le départ de mon greffier. Pourriez-vous me faire conduire ?» Fénigan répondit « Rien de plus facile. » Et Lydie, bondissante de joie, « Je vais dire à Libert d'atteler. » Delcrouz partait, plus rien à craindre aujourd'hui. Le mari reprit en riant « Allons tous prévenir Libert. » Pendant qu'ils remontaient le jardin, traversé de cris d'hirondelles et de longs rayons dorés en diagonale, le juge, qui marchait près de Fénigan, lui glissa dans l'oreille. « Faites-moi donc un bout de conduite, rien que nous deux. J'ai quelques renseignements à vous demander. » Évidemment, il voulait le questionner sur Lydie. C'était la piste rapportée de Grosbourg. Richard dut faire appel à toute sa réserve de sang-froid, de fermeté. « C'est convenu. » répondit-il sur le même ton mystérieux. Quand Lydie vit la calèche ouverte s'avancer dans la cour où les voitures de la réception attendaient devant le Polonia et Richard monter à côté du juge d'instruction, son délicieux visage se décolora, un instinct secret l'avertissant tout à coup qu'on lui enlevait son mari, qu'elle ne le reverrait pas de sitôt. Pourtant, elle maîtrisa son émotion et dit en souriant «
« Soyez gentils, messieurs, emmenez-moi, le temps de mettre un chapeau. »
Richard comprit la pression de bras significative du magistrat.
Ce n'est pas la peine, je ne vais que jusqu'à l'entrée du pays. » Il ajouta, penché vers elle, avec un baiser au bout des doigts. « Rentre un peu au salon, tu rendras service à maman. » Par les fenêtres ouvertes du rez-de-chaussée s'envolait un gazouillis de voix de femme, un papotage mondain très excité. Debout en haut du perron, Lydie, avant d'entrer, vit les chevaux de la calèche franchir la porte en piaffant et son mari qui se retournait pour lui crier « À tout à l'heure !» Ce n'est pas sans déchirement, bien qu'en parlant de lui l'image soit peut-être excessive, que Delcruz avait sacrifié les uselles à Grosbourg et l'amour à l'avancement. Venu à pied le long de la Seine, à la moitié du pont, sa perplexité durait encore. Et si le chaperon rouge avait été là, nul doute que le sortilège de son rire, la force de la présence réelle, eussent triomphé des désirs d'avancement rapide et du prestige des hautes influences. Mais, livré à ses seuls instincts, le juge au tribunal était incapable d'aller jusqu'aux uselles sans avoir pris le parti que lui conseillait son ambition et sa sécheresse de cœur. Il ferait son devoir de magistrat et, pour cela, obtiendrait d'abord une causerie intime de son cher Fénigan avant l'interrogatoire définitif de l'instruction, de façon à contrôler les aveux du prévenu par les confidences de l'ami. Aussi, dès qu'ils furent hors du pays, les chevaux faisant sonner le sol battu de la grande route, le juge commença son enquête. L'ami Fénigan devait comprendre le motif qui les avait empêchés d'emmener sa jeune femme. Comment parler devant elle de la mort du prince d'Olmutz, décidément violente et tragique, et non pas le simple accident affirmé par les médecins ? « Vous avez donc des preuves ?» demanda Richard avidement. Et Delcruz, d'un mouvement de tête, « Absolu !» Le mari ne douta plus cette fois. C'était bien de Lydie qu'il s'agissait. Mais quelle folie de croire qu'il allait livrer sa femme à ses justiciards, qu'il n'aimerait pas mieux 100 fois se livrer lui-même. Delcruz, quoique peu subtil, l'avait senti s'émouvoir sous son hâle et continua ravi. Une première preuve est qu'il nous avait tout d'abord échappé. Comme la plupart des hommes à bonne fortune, les jeunes surtout, le prince gardait sur lui des lettres de femmes, portraits, souvenirs qu'il montrait volontiers. Un petit porte-carte en écaille, plein d'ex-votos de ce genre et bien connu de ses amis, ne le quittait jamais. Or, quand on l'a retrouvé, ses poches étaient vides. C'est ce qui a dirigé et confirmé nos soupçons. Exactement le drame imaginé par Richard, Lydie voulant ravoir à tout prix le souvenir que Charlet refusait de lui rendre. Pourtant, il se contint et trouva la force d'objecter au magistrat dont les arguments le pressaient comme des tenailles. « Mais si les poches ont été fouillées à ce point, on l'a tué pour le voler, tout simplement ?»« Non, puisqu'il avait encore son porte-monnaie, sa montre, ses bagues. On n'en voulait qu'à ses lettres et à sa figure de joli coureur. C'est bien la forme du crime passionnel. » Le mari ne répondait pas. Delcruz craignit d'être allé trop loin et de ne pouvoir plus rien en obtenir. Pour le reprendre, il essaya d'une diversion. « Savez-vous à quoi j'ai pensé, Richard ? À une vengeance de femme ?» Il le vit tressaillir et, croyant l'amorce bonne, l'idée m'en est venue devant ce corps soigneusement étendu, donnant l'illusion de la vie dans une posture et sous un abri habituel. Ne trouvez-vous pas que cette installation de musée Grévin indique un raffinement, une coquetterie de vendetta tout à fait féminine ? Richard comprit que sa femme était perdue et se jeta devant elle. « La vengeance n'a pas de sexe, mon cher, pas plus que la jalousie. Un mari trompé qui se venge peut mettre son crime en scène aussi subtilement que la femme la plus perverse. » « Alors vous ne verriez pas une main de femme là-dedans ? » « Je jurerais le contraire. »« Dame, vous vous y connaissez !» dit le juge, secoué d'un gros rire qu'il croyait spirituel. Puis, brusquement, par une de ces voltes qui font partie des malices de l'instruction, il demanda, confidentiel et sérieux. « Vous êtes, m'a-t-on assuré, de tempérament très jaloux ?»« Très jaloux, en effet. Il paraît même que sous le coup de cette passion, vous avez écrit des lettres d'une violence. Sait-on ce qu'on fait en de pareils transports ? Il y eut ici un de ces points d'orgue suivis de quelques mesures de silence où les esprits s'apaisent, se reprennent. Sur la route, blanchissant à mesure que le ciel s'obscurcissait, des travailleurs qui rentraient, muets et las, tout le poids de la journée dans les reins, passaient par deux, par trois, le bissac et la bêche à l'épaule. Un charretier, endormi au bercement des sonnailles, sautait de sa bête en sursaut pour laisser la place à la calèche, que suivait d'un œil d'envie le vagabond assis au bord d'un fossé, occupé à dérouler les bandes de linge de ses pieds tout saignants. Au bas des vignobles en pente, la scène empourprée par le couchant faisait plus sombre les bois massés en face tout le long de la corniche. De loin en loin, la chaîne sifflait sur la rivière, et d'en haut, la forêt lui répondait avec ses rossignols, une averse de notes amoureuses et joyeuses, des senteurs de muguet qui traversaient la voiture au passage, évoquaient pour Richard l'image adorable de Lydie, pour Delcrouz, le rire aux dents étincelantes d'Élise. Ô musique de mai, fraîcheurs odorantes des lisières, de quel fluide mystérieux vous enveloppez les âmes les plus revêches. Le juge, très impressionné, aurait presque télégraphié à Versailles pour se faire suppléer à l'instruction. Mais cette faiblesse ne dura pas. Tout à coup, vers l'entrée de Soisy, d'un petit chemin montant entre les vignes, surgit une longue silhouette, toute noire sur le blanc crayeux de la route. « Bonjour, monsieur Cérès !» cria Richard, donnant l'ordre au cocher d'arrêter. Le premier mot du vicaire fut pour demander naïvement si le propriétaire de la petite paroisse était revenu lui aussi. Richard répondit qu'il avait laissé monsieur Mérivet à Marseille, mais pas pour longtemps. « Et vous-même, mon cher abbé, qui vous retient si tard sur les chemins ? Il y a donc de la misère à soulager par ici ?» Le vieux prêtre essuya la sueur de ses cheveux blancs en couronne sous son chapeau à large bord et dit très simplement « Je viens de votre pêcherie, monsieur. Le père Georges, ce vieux mendiant que vous avez recueilli, m'a fait appeler. Est-ce qu'il est toujours malade ? Oh, il va mourir. Je lui porterai l'extrême onction dans la soirée. Pauvre père Georges, Lydie va avoir du chagrin. » Richard ajouta, comme la soutane s'enfonçait dans le crépuscule, « Tous les frais de sépulture à mon compte, je vous prie, monsieur l'abbé. »« Merci, brave cœur !» répondit la forte voix du prêtre, déjà lointaine. L'ombre des arbres se retirait des prairies. Tout devenait noir, comme sous l'aile de la mort qui avait traversé le chemin. Pendant que le cocher allumait ses lanternes, Delcrouz, ramené au drame de la matinée et à ses pièces d'information, demanda à l'ami Fénigan. « Quand avez-vous donc quitté M. Mérivet ?»« Je l'ai quitté hier matin. » Il se reprit très vite, songeant qu'il exposait sa femme. « Mais non, qu'est-ce que je dis ? C'est avant-hier. Enfin, il y a 2 jours. On n'imagine pas comme une nuit de voyage vous déshère. » Il s'enferre, le malheureux, pensa le magistrat. Et par une sorte de pitié, peut-être un dilettantisme professionnel, il s'efforçait, trouvant la partie trop facile, de lui ouvrir les yeux sur son imprudence. Pourtant, ce matin, quand nous nous sommes rencontrés sous bois, vous m'avez dit que vous arriviez seulement. Il fallait qu'il en fût ainsi, car on ne peut admettre que depuis 2 jours, vous rôdiez dans le pays, sans rentrer une fois chez vous. C'est évident, murmura Richard, volontairement ahuri. Cette fois, le juge se dit « Il fait la bête !» Et, après un instant de réflexion, « Voyons, Fénigan, ceci tout à fait entre nous. Vous savez que, malheureusement, les relations du prince d'Olmus et d'une personne qui vous est chère ont été très connues dans le pays. » « Je le sais, » répondit Richard, impassible. « Eh bien, vous ne vous êtes pas dit qu'en trouvant le cadavre du prince presque à votre porte, la justice songerait d'abord à une vengeance, venue, sinon de vous, du moins de chez vous ?»« Je n'ai pas eu cette idée parce que c'était une supposition vraiment trop facile et qu'il était peut-être plus adroit de penser que, tué ailleurs, le prince avait été transporté à cette place dans un but très compréhensible. » Delcrouz, à son tour, se sentit dépassé, et tout haut, les yeux bien francs, « Voilà qui est sagement raisonné. Je veux cependant vous poser encore une question à laquelle vous êtes libre de ne pas répondre. jaloux comme on vous sait, je suppose, arrivant chez vous mystérieusement par la grille du bois et vous trouvant face à face avec le jeune prince sortant de votre parc au petit jour, que se serait-il passé? Ne croyez-vous pas que je l'aurais tué? Si, parfaitement, et avec autorisation de la loi encore. Mais malheureux, jamais de la vie! La loi, oui, je veux bien, mais seulement dans le cas de flagrant délit. Mon cher Delcruz, pour une imagination de jaloux, il y a toujours flagrant délit. Ces mots furent jetés avec une véhémence qui fit bondir le magistrat sur les coussins de la calèche et lui sembla l'aveu le plus décisif qu'il pût obtenir de ses confidences amicales. À présent, la parole était au juge d'instruction. Le mari, lui, très inquiet, se demandait « Que va-t-il faire? Qu'a-t-il à me dire pour m'avoir amené jusqu'ici ?» On entrait en effet dans Corbeil, comme les premiers réverbères tremblotaient sur la scène dans les derniers reflets du couchant. Un peu de fumée noire haletait encore aux cheminées géantes des minoteries, des papeteries, dont on rencontrait les ouvriers par bandes silencieuses le long des trottoirs, portant tous, hommes et femmes, de sinistres paniers en paille couleur de suie, sans doute à cause des émanations de l'usine. À part cette sortie de troupeau-là, personne dans la rue Notre-Dame, ni sur la place Galignani, étroite et sombre, où se dressait dans un coin, adossé aux toits enfarinés et comme poudré de neige du grand moulin sur l'Essonne, le vieux palais de justice communiquant avec la maison d'arrêt. La voiture du président est encore là, dit Delcruz, voyant les deux vantaux du portail ouverts. Et comme le cocher hésitait, il lui cria « Entrez, entrez donc !» Dans la cour vaguement éclairée d'un reste de jour et de deux anciens réverbères, il descendit le premier et pria Richard de le suivre jusqu'à son cabinet. « Pour une communication urgente » ronchonna-t-il, la voix changée, très dure. Richard, sans répondre, entra à sa suite dans une grande pièce au fond du couloir où une lampe à demi baissée attendait sur un bureau à cylindre. De grands coups sourds, venus du moulin et de sa machine hydraulique, rythmaient le silence de l'endroit. Delcruz remonta la lampe, sonna son greffier qui travaillait dans la pièce à côté. Pendant qu'il gribouillait et chuchotait, « Mandat de dépôt, secret obligatoire !» Richard, par une haute fenêtre ouverte et grillagée, regardait dans une autre petite cour, au-dessus d'une porte jaune, ces mots qu'il déchiffrait avec peine au jour tombant. « Maison d'arrêt cellulaire !» Oh, la porte livide et basse, et comme elle symbolisait bien la misère enfermée là, cette chauve-souris tournoyant dans l'étouffement de quatre hautes murailles noires par la lourde soirée d'été. « Mon cher monsieur Fénigan !» À la voix cinglante du juge, Richard se retourna vers le bureau. « Vous me voyez navré, je suis obligé de vous garder à la disposition de la justice. » Richard Fénigan prit un air atterré, mais il devait s'attendre à quelque surprise de ce genre, puisqu'en descendant de la voiture, il avait glissé au cocher libre impassible sur son siège ce petit mot pour Lydie. « Pars vite !» N'importe où tu seras, je serai avant 8 jours.